Tout de suite, direction la porte de Versailles pour l'inauguration de Livre Paris, où vous vous trouvez, bien sûr, Arnaud Laporte.
Je vous le confirme, Aurélie Kiffer, mais je pense que ça doit s'entendre. Merci à vous, Aurélie.
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Camille André et Joséphine Dumoulin. Côté technique ce soir, à la coordination Rémi Gouriou, à la prise de son Emmanuel Morzlincan, à la sono Sébastien Huel et Martin Guénaud. Une émission particulière ce soir car d'une part cela s'entend donc, nous sommes au salon Livre Paris en direct depuis le studio de France Culture. Nous serons d'ailleurs demain encore pour une émission consacrée aux livres sur le cinéma. D'autre part, notre émission de ce soir trouve son origine dans une revue papier, la revue de France Culture dont vient de paraître le numéro 28. Et au cœur de cette revue, un grand dossier intitulé « À quoi bon la littérature dans un monde d'images ?» Et au cœur de ce dossier, 54 réponses d'écrivains à cette question. 4 d'entre eux sont avec nous sur ce plateau, Christine Montalbetti, Sabrina Calvo, Gérard Mordia et Aurélien Bélanger, avec nous également Sandrine Trainer, la directrice de France Culture et la directrice éditoriale de la revue Papier. Avant toute chose, Sandrine Trainer, qui ne sera pas avec nous jusqu'au bout de cette émission parce qu'elle a d'autres obligations, peut-être pour rentrer dans les coulisses de la fabrication de la revue Papier. Sandrine, comment est venue cette idée de dossier et cette question, surtout, que je répète, je vais le dire un certain nombre de fois, à quoi bon la littérature dans un monde d'images ?
Oui, bonjour à tous, bonjour Arnaud. Quand vous avez énoncé le sujet de ce dossier et cette phrase que vous venez de répéter, je me suis dit, on aurait pu dire aussi dans ce monde de brut, non ? On est entre le monde d'images et le monde de brut. Écoutez, tout ça remonte à il y a un siècle. Non pas que nous ayons cet âge-là, nous sommes bien plus jeunes, mais il y a un siècle, en 1919, on sortait de la guerre et Paul Valéry soufflait à quelques jeunes gens, dont André Breton, une idée qui était de se demander ce que c'était que d'écrire au sortir de la guerre. Pourquoi écrivez-vous ? Ce fut le premier manifeste surréaliste adressé aux écrivains. Un certain nombre de réponses, certaines flamboyantes. Alors on pourrait faire un jeu littéraire pour savoir si certains d'entre eux les connaissent. Qui a dit quelque chose comme « Pour ma part, j'écris assez peu, votre reproche ne me concerne guère
ouais, ». Oui.
Voilà, c'est ça. Par exemple, Monsieur Mordia, est-ce que vous avez la réponse à cette question ? Attendez, je vous donne la phrase.
La première idée qui me vient, c'est...
Votre reproche me touche à peine.
Ah, alors ce n'est pas Pierre Dac, c'est dommage. Je ne sais pas trop qui pourrait... Votre reproche me touche à peine.
Ouais. Non, c'est pas Bernanos. Très peu. Disait-il.
Oui, alors quelqu'un
bon,
qui écrit...
Le faire,
bon, allez, c'est Jean Paulhan.
Et alors, Jean Paulhan,
oui, voilà. Et
c'est
qui a
mal,
répondu par faiblesse ?
Christine Montalbetti.
Ah oui, j'avoue, c'est un piège. Bon, ouais. Alors c'était, en l'occurrence, en effet, Paul Valéry. Donc ça, c'était en 1919, en 1988, Libération...
Ils vont croire qu'ils sont invités à un quiz, hein, Sandrine,
non,
si
non,
vous
mais
continuez.
Non, mais c'est pour ça que
donc.
j'arrête, promis.
Bélanger sur le buzzer, c'est bon.
En 1988, Libération avait reposé la question à de nombreux écrivains en France et à l'étranger. Et là, nous avons eu l'idée avec Philippe Thureau d'Angin, le coéditeur de la revue Papier, de poser cette question aux auteurs contemporains en reliant effectivement la question de l'écrit à celle de l'image. Et donc, ces 54 réponses qui sont publiées, qui ont été rédigées et écrites par ces écrivains et qui sont dans ce numéro papier.
Il n'y a pas que ça dans le dossier.
Non, il n'y a pas que ça.
Non, mais même dans ce dossier, il y a 30 livres pour survivre.
Oui, parce que d'un côté, il y avait ce « pourquoi écrivez-vous » et puis de l'autre côté, on pourrait s'adresser au lecteur et se dire « et vous, pourquoi lisez-vous » Alors nous, on s'est posé cette question-là avec un certain nombre de productrices et de producteurs de France Culture et on a édifié une sorte de sélection des livres d'ici et d'ailleurs, d'aujourd'hui et d'hier, qui nous paraissent être à même de nous permettre de saisir l'époque et l'actualité troublée dans laquelle nous vivons. Voilà, cette sélection est aussi dans ce numéro papier des tas d'autres choses. Mais revenons-en à la question essentielle qui nous occupe. Pourquoi écrivez-vous ?
Plus exactement, à quoi bon la littérature dans un monde d'images ? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que nous avons choisi d'inviter ce soir quatre des répondants à cette question, quatre auteurs. C'est qu'aucun de vous, à l'exception peut-être de Gérard Mordillat, mais c'est peut-être parce qu'il est cinéaste, n'a vraiment répondu à cette question. Alors on va faire une session de rattrapage en fait pour commencer, parce qu'il faut quand même qu'il s'y colle avec Aurélien Béranger, Sabrina Calvo et Christine Montalbetti. On pourrait dire quelle place accordez-vous à l'image ou en quoi cette place peut avoir une influence positive ou négative d'ailleurs sur votre écriture. Je l'interrogerai quand même Gérard Mordillat, mais Sabrina Calvo, votre cas est particulier, il l'est pour chacun et chacune de vous. Puisque si vous êtes écrivaine, vous êtes également dessinatrice, conceptrice de jeux vidéo, l'image c'est quand même une part de votre expression, mais vous n'y faites pas référence dans votre réponse à la revue papier. À quoi bon la littérature dans ce monde d'images, pour vous qui en faites aussi des images, Sabrina Calvo?
Ben, je sais pas, il y a le mot littérature, donc j'ai eu tendance à ne pas percevoir mon travail de la même manière, si ça s'adresse à une non-linéarité propre aux jeux vidéo, en fait, ou si c'est moi dans mon exercice intime d'écriture, en fait. Mais le jeu vidéo.
Pour vous, c'est très étanche ?
Non, c'est pas du tout étanche. D'ailleurs, le jeu vidéo d'où je viens n'est pas le jeu vidéo avec image. C'est de ce qu'on appelle la fiction interactive, ou même ce qu'on appelle la narration interactive. C'est des mots à la base, c'est des parseurs, quoi, donc c'est du texte pur. Et moi, j'ai appréhendé la littérature au tout début de ma vie très très jeune à travers ces jeux-là, en fait, qui étaient des jeux littéraires et textuels, quoi. Alors, j'ai pas fait référence tout simplement parce qu'on m'a posé la question de la littérature. Alors, moi, je crois que je suis un peu mal à l'aise quand on me demande ce que c'est que la littérature, parce que j'imagine que c'est le cas pour tout le monde, hein, parce que qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est l'objet livre? Est-ce que c'est l'acte d'écrire? Est-ce que c'est la manière dont c'est perçu par du critique ou par des gens qui ont l'habitude de réfléchir là-dessus? On m'a posé cette question-là, je me suis dit, tiens, ça fait référence à mon activité d'écriture intime qui se borne à être le mot et la composition du mot sur la page, de manière très pure, comme ça, et c'est comme ça que je l'ai approché, tout simplement.
Aurélien Béranger, cette non-réponse sur l'image pour un auteur présenté, à juste titre, comme un observateur avisé de la modernité, ça peut surprendre aussi. L'auteur de la théorie de l'information du Grand Paris sait combien la technologie, les images qu'elle permet de diffuser à la vitesse grand V ont changé quand même notre façon de lire le monde. Et vous non plus, pas un mot sur les images dans votre réponse?
Ben non, je me sens pas du tout harcelé par les images. J'ai désinstallé et installé et redésinstallé 3 ou 4 fois Instagram sur mon téléphone.
Vous en êtes où là, pour savoir si on vous suit ce soir?
Là, je l'ai plus. Il n'y a plus d'image. D'accord. Donc je vois pas du tout. Non, je suis pas. J'ai l'impression que même Internet est un média très très. Un des médias de lecture, ouais. Beaucoup plus. On lit des mots, quoi. Après, il faudrait voir si c'est pas des sortes d'images condensées eux-mêmes. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai pas répondu sur les images. Ouais.
Christine Montalbetti, on continue ce premier tour rapide de table. Non-réponse sur l'image, elle aussi troublante, quand on sait l'intérêt revendiqué que vous portez au cinéma. Alors, vous avez notamment déclaré dans une revue qui porte bien son nom ce soir, Textimage, que les images cinématographiques fonctionnent pour vous comme des stimuli, mais pas comme des matériaux. De quelle nature sont ces stimuli?
En fait, pendant très longtemps, je vous m'entendez?
Moi, je vous entends.
Oui, mais je l'aime. Voilà. Ah, pendant très longtemps, j'allais voir des films le soir et le lendemain matin, quand j'écrivais, j'avais l'impression que l'énergie que je trouvais à écrire puisait aussi sa source dans les émotions esthétiques que j'avais vécues la veille au soir, sans qu'il y ait forcément de rapport thématique entre le film que j'avais vu et ce que j'étais en train d'écrire. Effectivement, j'ai pas vraiment répondu à la question parce que j'ai du mal à à penser les rapports entre l'image et la littérature comme des rapports de concurrence. Au contraire, je me sers beaucoup des images quand j'écris. Alors à la fois, comme vous l'avez dit, autour du cinéma, western est évidemment né de mon goût pour le cinéma de western américain et italien.
Et italien surtout.
Voilà. L'évaporation de l'encre aussi est née de mon goût pour les films de Kurosawa. Et puis moi-même, dans l'écriture, je travaille volontiers avec des images, soit avec des images que j'ai prises. Par exemple, dans Journée américaine, j'avais filmé un peu la route 66 et je me suis servi, j'ai revisionné ces images, je m'en suis servi pour écrire des descriptions. Ou bien pour La vie est faite de cette toute petite chose qui évoque le dernier vol de navette américaine Atlantis. Là, j'ai trouvé énormément d'images sur Internet, des images de caméras de surveillance, des images d'amateurs filmant le lancement. Et je m'en suis servie pour écrire. Enfin, ma démarche d'écriture pour ce roman-là a vraiment été d'essayer de saisir dans des phrases ces images multiples que je pouvais voir.
Alors, nos auditrices et auditeurs ont peut-être l'impression qu'à chacune des phrases, il y a des applaudissements d'une foule effrénée.
Mais c'est le cas, Arnaud Laporte. On vous applaudit. Ah,
parce que je suis dans le dos au public pour vous regarder, vous. Mais c'est une soirée d'inauguration au Salon du Livre. Il y a pas mal d'événements et pas mal de bruits satellites. Gérard Mordillat. Vous écrivez, vous avez dit plusieurs fois qu'il n'y a pour vous pas de hiatus entre ce que vous écrivez et ce que vous filmez. Vous dites aussi que le cinéma et la littérature sont complémentaires, s'allument de feu réciproque. Là, c'est une référence à Mallarmé qui parlait de ça pour la musique et la poésie. Mais que la distinction s'opère ailleurs, sur le terrain économique. Expliquez-vous, le roman étant, je vous cite encore, le dernier véritable espace de liberté, parce que du côté cinéma et télévision, il y a le mur de l'argent qui peut se dresser. Des feux réciproques ?
Oui, absolument, des feux réciproques, et puis des feux qui s'attisent puissamment, parce que je crois que nous devons, en tant qu'écrivains, nous pouvons en tout cas entendre la leçon du cinéma, parce qu'il y a un discours, il y a une narration qui vient directement du cinéma, et sans avoir à copier ou à reproduire les choses, nous pouvons l'entendre, mais... John Dos Passos l'a fait bien avant nous, a compris la simultanéité, le fait de pouvoir faire exister dans une même page différents plans temporels, etc. Et moi, je crois que c'est ça, la force finalement réciproque. Le cinéma nous alimente de ce côté-là. Et puis, la littérature permet d'atteindre des choses, à mon avis, plus secrètes de l'individu, donc de la lectrice ou du lecteur, et puis bien de se nourrir l'un l'autre. En se servant finalement des forces réciproques et du cinéma et de la littérature.
Mais parallèlement, alors pour nous, lecteurs et spectateurs, on a pu voir quasiment en même temps, si je peux dire, Mélancolie ouvrière, le film que vous avez réalisé pour Arte, et Ces femmes-là, le dernier livre en date chez Alma Michel. D'un côté, un film pour la télévision avec un personnage principal, enfin n'importe lequel, Lucie Beau, première femme syndicaliste, et de l'autre côté, une quarantaine de personnages qu'on va rencontrer dans une manifestation. Et ça, c'est le livre qui permet ça.
Absolument. Enfin, surtout, là, on voit bien que le mur de l'argent, aujourd'hui, en tout cas en France, rendrait impossible de faire une adaptation de ces femmes-là, d'organiser cette manifestation avec ces débordements. Mais j'ai en fait rien à faire, puisqu'actuellement, ça se passe en France un peu partout. Donc, mon livre est déjà mis en scène, et c'est du théâtre de rue. Et donc voilà, mais c'est vrai que les deux, le rapport entre Mélancolie ouvrière, cette première femme syndicaliste et ces femmes-là qui se passent en 2024, c'est-à-dire un pas en avant, eh bien justement ça montre comment à la fois le regard sur le passé et le regard sur le futur, ce décalage que ça provoque, nous permet d'avoir vraisemblablement une lecture plus pertinente, peut-être plus profonde, de la réalité contemporaine.
Sandrine Trainer.
Oui, mais pour autant, Gérard Mordillat, on ne quitte pas l'univers du livre, puisque en l'occurrence, Mélancolie ouvrière était une adaptation d'un texte formidable publié par Michel Perrault.
Par Michel Perrault, bien entendu. Michel Perrault a été la première à sortir du néant où elle était tombée, Lucie Beau, et j'ai pris le relais d'une certaine manière, et nous continuons, et peut-être que nous allons retourner au livre, puisque grâce à l'existence du film, un certain nombre de sources que Michel n'avait pas pu trouver commence à apparaître. On a retrouvé les héritiers de la filature, l'arrière-petite-fille de Lucie Beau qui ignorait tout de son ancêtre s'est mis à sortir aussi des choses. Donc, Mais en même temps, j'ai envie de dire que dans tous les travaux que j'ai faits, il y a toujours eu cet aller-retour entre le texte et le cinéma. Quand j'ai fait les films sur Antonin Artaud, nous avons republié avec Jérôme Prieur tout Jacques Prouvel, ce qui n'avait jamais été fait. Quand nous avons fait les travaux sur la littérature chrétienne ou musulmane, nous avons ensuite republié nos essais et nos propres recherches sur ces questions. Je suis actuellement en train de monter une série sur l'économie. J'ai déjà préfacé une réédition du Capital de Marx et je pense qu'on écrira encore derrière. Donc vous voyez, quand je dis que ça s'allume de feu réciproque, c'est la démonstration.
Alors je reviens là, au questionnaire du numéro 28 de papier. À quoi bon la littérature dans un monde d'images? Alors j'ai quand même lu vos réponses, certes, mais aussi les 50 autres. Il s'en dégage quelques grandes tendances et j'avais envie de vous les soumettre pour éventuellement les commenter ensemble. Première tendance, quelque chose qui revient souvent, c'est la question de la paresse. Philippe Adam écrit « Les images ne dominent pas, c'est la facilité qui domine. Nous devenons paresseux, les écrans nous proposent le moindre effort et c'est bien entendu lui que nous choisissons. » Ce à quoi le texte de Muriel Barbéry répond d'une certaine façon « La fiction en images créée par d'autres ne nous demande aucun effort, alors que le roman requiert sans cesse notre participation et secoue notre paresse. » Gaëlle Obiegli, elle dit « Alors que l'image s'offre, l'écriture résiste, c'est sa distinction. » Alors peut-être un petit tour de commentaire. À quoi bon la littérature dans un monde paresseux, Aurélien Bélanger ?
Ben, il y a une difficulté qui se pose, c'est que la mise en scène de la littérature, elle est, ça forme des sortes d'images compactes qu'on appelle des pages, et donc c'est cet objet qu'on a sous les yeux, et donc on pense que la littérature, c'est feuilleter des pages, etc. Alors qu'en vrai, c'est quelque chose de très arbitraire, la littérature, c'est strictement une très 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 longue suite de lettres qui forment des mots. Donc c'est un travail quasiment d'aiguille, comme ça, d'aller chercher les choses. Il n'y a rien de plus agréable que de chercher une citation dans un livre qu'on avait oublié, parce qu'on relit le livre...
On la trouve jamais,
de façon,
vraiment.
On la trouve jamais, mais on redéconstruit le livre. C'est comme si d'un coup, on fabriquait autre chose. Et là, on se souvient qu'il y avait, dans cet arbitraire, comme ça, des choses bien posées, il y avait autre chose, et qui est à la fois beaucoup plus vivant et qui est beaucoup plus insaisissable. Et on se rend compte que la littérature telle qu'on la connaît, et telle qu'elle est mise en scène, n'est qu'une technique de l'âme, et qu'en fait, il y en a d'autres, et qu'il y a un jeu comme ça, bah, évidemment, quand on écrit, et aussi quand on lit. Et c'est très, très agréable... spirituellement, vraiment, comme... Mais c'est vrai que c'est difficile, donc...
La paresse peut l'emporter, Sabrina Calvo. On est plus facilement requis par les images qui nous arrivent. On est dans une attitude plus passive face aux images, et il faut être actif devant le livre. Et le monde est peut-être aujourd'hui trop paresseux. Il y a un monde de brut, mais un monde de paresse pour vous ? Ou ça vous paraît...
Non, moi, ça me paraît complètement aberrant de dire un truc pareil. quelqu'un comme Peter Watkins, qui est un cinéaste admirable... propose à la fois une lecture de l'image et un engagement vis-à-vis du sujet proposé par l'image qui dépasse, qui atteint des niveaux hallucinants d'implication. Enfin, donc non.
Mais ça, vous prenez un exemple justement remarquable, parce que les cinéastes qui nous font une place à nous en tant que spectateurs ne sont quand même pas si nombreux. Il y a beaucoup de robinets à images dans les salles.
Oui, enfin, il ne faut pas prendre cinéma. Le cinéma hollywoodien et la narration hollywoodienne traditionnelle comme étant la norme du cinéma.
Ce n'est pas la norme, c'est l'énorme majorité. C'est de ça dont on parle, de ce qui arrive dans les écrans.
Oui, ce qui arrive dans les écrans, oui, au cinéma, mais ce qui arrive dans les écrans de plein de manières différentes, c'est aussi massif, quoi. Et l'activité du cinéma indépendant, l'activité même, on parlait de jeux vidéo, mais je veux dire, je serais bien en mal de qualifier des joueurs et des joueuses de paresseux et de paresseuses devant un jeu vidéo. Alors effectivement, on peut voir l'image du mec devant sa PS4 comme ça.
Non, ça c'est pas paresseux.
Avec son pad, non, c'est pas paresseux du tout. L'engagement sur certains jeux, il est hallucinant, et même sur la plupart des jeux. Donc moi, j'ai pas envie de faire des généralités comme ça. Par contre, il est certain qu'on propose que les images dépossèdent une certaine profondeur de sens que la littérature peut amener. Par exemple, dans la science-fiction, nous avons tout le cyberpunk qui a été une manne politique et contestataire dans les années 80 énorme. Et aujourd'hui, après deux décennies d'assèchement visuel du cyberpunk, on en arrive à des gars en gabardine noire et en lunettes de soleil qui se tapent des poses à la Batman sur un fond de Néo-Tokyo, quoi. Donc non, c'est ça le cyberpunk aujourd'hui. Et c'est trop bien. Non, ce n'est pas ça le cyberpunk. Donc je pense qu'effectivement, il y a un appauvissement, il y a une espèce d'usure du sens par l'image, mais de faire une généralité pour dire que l'image, c'est la paresse, non, je suis pas d'accord du tout.
Christine Montalbetti.
Moi, je ne crois pas du tout que l'image s'offre. ni l'image de cinéma. Alors évidemment, si on pense à des films, comme vous dites, qui laissent une grande place au spectateur, elle ne s'offre pas. Si on pense à Jarmusch, à Wenders, etc. Mais même si on prend un film de série B, ça n'est pas du tout vrai, je crois, que l'imagination ne travaille pas quand on est spectateur. Je pense qu'au contraire, un film, même qu'on regarde sans analyser les plans, sans penser à la lumière, sans penser au jeu de l'acteur, mais en étant vraiment immergé dans la fiction, sollicite aussi notre imagination, et c'est pour ça qu'il nous touche. C'est que ça vient chercher aussi des souvenirs personnels, et je pense que nos cerveaux fabriquent des images autres que celles qu'on est en train de regarder. Et par ailleurs, beaucoup d'images résistent, ne s'offrent pas aussi au sens où elles résistent. J'ai eu la chance, dans le cadre d'un accord entre la Maison des Écrivains, qui est en péril en ce moment et qu'il faudrait penser à soutenir, un accord entre la Maison des Écrivains et Visa pour l'Image, de devoir écrire
Visa
un...
Visa pour l'Image, c'est un festival de photojournalisme,
voilà,
à Perpignan.
De devoir écrire un texte sur une photo que je choisissais dans un reportage. Et j'ai choisi une photo d'Olivier Jobard qui représentait un enfant qui tient un ballon devant un but de handball. Et donc là, devant des immeubles. Donc la première lecture qu'on pouvait faire de cette image, c'est que cet enfant était descendu des appartements, qu'on était entre l'heure de l'école et l'heure du dîner, et qu'il allait remonter dans les immeubles qu'on voyait derrière les arbres. Et puis la légende et l'insertion de cette photo dans un reportage sur un enfant afghan qui était arrivé seul à Paris à l'âge de 12 ans faisait complètement reconsidérer l'image. La manière dont cet enfant s'accrochait au ballon tout d'un coup prenait un sens différent, parce que c'était un enfant qui n'avait rien, et du coup c'était presque métaphorique, cette manière dont il s'accrochait au ballon. Et ça n'était pas un enfant qui allait remonter dans l'immeuble, et voilà. Et donc l'image, elle peut avoir l'air de tenir un discours, mais en tenir aussi un autre. Il peut y avoir des strates d'interprétation très variées, et je crois que voilà, l'image résiste aussi.
Aurélien Bélanger.
Ça me faisait penser à une théorie que je pique à un ami réalisateur qui n'est pas de moi, mais qui est trop bonne pour pas vous en faire part. Le vrai inventeur d'Hollywood, en fait, c'est Charles Dickens, et que cette espèce d'énorme continuum qui brasse des milliards n'est qu'un sous-produit des romans de Dickens. Cette façon de mettre des émotions, quelque chose de plus grand que la vie, et en même temps sur fond de message d'une profonde limpidité morale et d'un profond humanisme, c'est strictement Hollywood. Et ça arrive, et c'est assez amusant parce que ça arrive tout au bout, au moment où Hollywood mute et devient autre chose et renonce aux acteurs, et ça arrive aux adaptations de Zemeckis, son adaptation d'un conte de Noël qui est vraiment la tarte à la crème du truc de Dickens que tout le monde connaît, et il arrive comme ça à emmener Hollywood vers autre chose. Et j'exclus pas à la fin que ça se referme un petit peu et qu'on considérera effectivement que Dickens était plus important qu'Hollywood.
Charles Mordilla.
Non, enfin, moi, il y a deux choses à distinguer. D'une part, c'est vrai que sur le plan de la fiction, mon sentiment profond est quand même que le cinéma est actuellement dans une période très régressive sur le plan de l'invention des images. Et notamment en France, il y a un appauvrissement, comme si soudain il ne s'agissait plus d'être inventeur d'images, mais simplement raconteur d'histoires. Et là, on voit la tutelle du théâtre et du roman peser très cruellement sur les films. Mais il y a un autre pan du cinéma, qui est le cinéma documentaire, où on voit là, à la fois sur le plan de la narration et de l'invention d'images, les choses sans doute les plus intéressantes et les plus performantes, les plus extraordinaires à découvrir. Et pour citer quelques grands anciens, quand on voit les films de Johan van der Keuken, d'Henri Storck, de Fred Wiseman, bien entendu, de Richard Dindo, le Suisse, quand on pense par exemple à Nénette, le film de Nicolas Philibert, qui est fait uniquement face à un orang-outan, qui est un film extraordinaire, d'une audace narrative extraordinaire. Je crois que c'est ça aussi le cinéma, et que ce cinéma-là, profondément, nous traverse, nous interroge, et nous interroge à la fois sur nous-mêmes, sur le cinéma, et derrière ça, sur la façon d'écrire le monde.
Sandrine Trainer.
Non, je voudrais peut-être simplement faire part devant ces quatre écrivains de mon étonnement, parce que quand j'entends cette phrase « Pourquoi écrivez-vous dans un monde d'images ?», je n'entends pas en réalité la comparaison ou la rivalité pour vous, écrivains, entre filmer et écrire. Ce que j'entends, ou en tout cas que je reçois, moi, en tant que lectrice de manière anxiogène, c'est la possibilité peut-être de ne plus réussir à adresser des textes parce que l'image sature, saturerait nos espaces, et que donc ce que j'entends potentiellement, ce serait, mais je vois que ce n'est pas le cas, une inquiétude de votre part de savoir si les spectateurs ne vont pas remplacer les lecteurs.
Sabrina Calvo, vous voulez la parole.
Non, mais je vais laisser à Gérard.
Gérard, d'abord.
Je voulais juste dire une chose, c'est que, évidemment, écrire ou filmer est un acte politique. Or, dans la situation où nous sommes, où les moyens d'expression nous sont de plus en plus comptés, eh bien, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire que si ça ne passe pas par la porte, il faut passer par la fenêtre. Et si on peut passer par le cinéma, si on peut passer par la télévision, si on peut passer par le théâtre, par la poésie, par les jeux vidéo, il faut. Parce que moi, je suis convaincu que le seul véritable discours d'opposition audible aujourd'hui, c'est un discours qui est tenu justement par les romanciers, par les dramaturges, par les poètes, par les musiciens, par les chanteurs, etc. Et donc, il y a là, bien sûr, il y a quelque chose qui ne risque pas de nous dépasser. L'image n'est pas un rival, c'est une arme supplémentaire.
Sabrina Calvo.
Oui, bon, alors je vais faire un pot pourri de tout ce que j'ai dans la tête, parce qu'il y a plein de choses que j'ai entendues absolument géniales, donc je sais pas. Donc j'avais envie de... juste pour répondre à la question de la rivalerie, déjà, moi, je pense que moi, je suis quelqu'un d'assez snob par rapport à mon activité d'écrivaine, quoi. Et donc, du coup, j'aime bien me dire que j'écris pour écrire, en fait, et c'est cool. Et j'ai pas de rivalité. Je trouve ça chouette d'écrire, et voilà. Et je pensais à une citation de Gore Vidal qui disait « Je pense pas que le roman soit mort, mais je pense que ses lecteurs le sont. » Et bon, c'était Gore Vidal, il est mort maintenant. Donc, c'est ça. Mais il y a le documentaire, et puis on n'a pas parlé de l'art contemporain non plus. Et... c'est rigolo parce qu'Aurélien, moi je suivais tes images quand tu les faisais de bâtiments dégueulasses là, tout administratif là, à un moment donné. C'était, moi ça me frappait et ça me rappelle des choses que j'ai vues dans l'art contemporain que j'aime énormément. Quelqu'un comme Tacitadine par exemple ou Ernaut Mick qui font des choses avec des images absolument remarquables et qui sont borderline littérature d'ailleurs, hein, quand on les regarde bien, quand on est vraiment dedans, ça a fait appel à des sens et il y a une machinerie de l'esprit qui vertigineuse en fait, quoi. Donc moi je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on devrait être en rivalerie, mais par contre moi j'aime bien être snob avec mon activité de juste faire des mots tout simples en fait aussi, quoi.
Justement, voilà. Parmi les nombreuses réponses à ce numéro 28 de papier, à quoi bon la littérature dans un monde d'images, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui répondent, qui écrivent avec les images. Je cite un extrait de Françoise Cloarec: pour moi l'origine est la même, besoin des deux, de l'écriture et des images. Judith Brust dit, écrit, chacun de mes livres s'accompagne d'un carnet de bord fait d'images, de mots et de collages. Pour moi, l'image n'offense pas les mots. L'écriture y prend fondation, devient alors un fait accompli. Vous l'avez un tout petit peu abordé tout à l'heure, Christine Montalbetti. Vous avez des images pour écrire vos livres. Il y a des carnets aussi.
Oui, j'ai des carnets et je peux avoir des images qui ont des statuts très différents. Dans la vie est faite de ces toutes petites choses. Comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé avec des images que je trouvais sur internet filmées, et du coup il y a un moment où j'avais la sensation, comme je le dis dans le roman, que je faisais presque un travail de monteuse, que j'aurais pu en fait monter bout à bout toutes les images qui m'avaient servi à écrire le livre. Ça aurait été absolument inregardable, parce que c'était souvent des images sans point de vue, des images de caméras de surveillance, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, une photo dans le monde sur la crise des subprimes, sur laquelle je suis tombée juste après un voyage aux États-Unis. Et ça, ça a été un co-déclencheur avec ce voyage du roman Plus rien que les vagues et le vent. C'était à la fois la rencontre d'un paysage, la rencontre sensorielle d'un paysage, et puis cette photo très frappante qui m'a permis d'inventer certains personnages.
Aurélien Bélanger, si en ce moment vous ne partagez pas vos images avec les autres, il y a une banque d'images pour vous qui peut être une source, quelque chose dans quoi s'origine parfois des textes ?
Non, pas trop. J'avais fait des fausses images. J'avais fait, pour un roman qui s'appelait Grand Paris, j'avais fait des captures d'écran sur mon iPad dans l'application Plan qui pouvait faire de la 3D. Et j'ai comme ça à peu près 400, la totalité des tours HLM d'Île-de-France. Et en fait, je les ai jamais utilisés. Mais de la même façon, là, j'ai terminé un roman et du coup, j'ai passé mon après-midi à enlever des post-it qui étaient posés sur un grand mur blanc. Et aujourd'hui, je suis face à un mur blanc et je me suis rendu compte que tous ces post-it qui faisaient hyper beau, et si je les mets en scène, j'ai hésité à les mettre sur Twitter parce que ça faisait un peu chic. Je pourrais vraiment les mettre en scène, genre c'est là où j'ai mes idées, etc. Il n'y a pas une seule fois où je les ai regardés. À partir du moment où c'est posé, enfin, il y a aussi un truc, ça marche aussi par rapport à la mémoire, c'est que Il y a à peu près rien qui marche d'autre que l'énergie qu'on a au moment où on écrit. Donc il y a un énorme... ça sert à titre personnel, moi ça me sert à rien d'avoir des carnets d'esquisses. Et je pense même que les peintres font pareil, ils se la jouent, ils font des carnets d'esquisses, etc. Mais en fait, au moment vraiment de passer à l'acte, on brûle tout et on se lance. Ouais.
Il opine, Gérard Mordillat.
Oui, mais je suis d'accord, bien sûr. Quand on écrit, on n'a pas besoin de... Enfin, ce qui est extraordinaire, je pense qu'on peut tous ici en témoigner, quand on est vraiment dans l'écriture d'un livre, soudain, le monde entier l'écrit avec vous. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on peut lire, les choses qu'on peut voir, tout écrit le livre que vous êtes en train d'écrire. On a le sentiment que tout le monde s'y met. Et ça, c'est une sensation formidable. Mais moi, en vous écoutant, je pensais aussi... Vous vous souvenez de ce livre de Michel Butor qui était « Les mots dans la peinture ». Et je le rapprocherai aussi du travail formidable qu'a fait John Berger sur une autre façon de raconter. C'est-à-dire comment on peut utiliser aujourd'hui, dans une narration romanesque par exemple, des images à part égale du mot. D'ailleurs, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé et qui m'a fait vraiment réfléchir. Qu'est-ce que faisait Gutenberg avant d'inventer les lettres d'imprimerie ? Il imprimait, enfin, il faisait avec du plomb fondu des petits miroirs qu'il vendait aux pèlerins. Parce qu'à ce moment-là, le miroir avait la réputation de garder l'image qui s'y fixait. Donc le pèlerin allait devant la Sainte Relique avec son petit miroir sur son chapeau, l'image s'y fixait. Et donc... ce métier-là, il n'a plus envie de le faire ou ça ne marchait plus. Et avec ce même plomb, il a inventé les lettres mobiles de la typographie. Donc du même plomb sont sortis et l'image et le mot. Je crois que là, toute notre discussion tourne au fond de ces jumeaux.
Et il y en a qui ont sauté. En plus, il y a des plombs qui se sont détachés, qui ont été imprimés sur la page et qui permettent de voir de profil à quoi ils ressemblaient. Donc en plus, ils sont devenus eux-mêmes des images.
Absolument.
Il y a quand même pas mal des écrivains interrogés par la revue Papier qui sont plutôt hostiles envers les images, parce qu'eux, ils ont répondu complètement à la question. Michael Ferrier parle des écrans ultra plats qui aplatissent tout, pendant que Salek Gras compare l'épaisseur du livre à la platitude des écrans. Mais pour développer un peu, Mario de Muraille écrit « Au commencement était le mot. Si je croyais à une quelconque supériorité de l'image sur les mots, je serais photographe ou cinéaste. » À l'origine de toute image, il y a des mots, mais l'image l'a oublié. Gwen Aubrey, elle écrit plusieurs romans. Son lit d'images se sont écrits à partir d'elle, c'est-à-dire en fait contre elle. La littérature a ce pouvoir, changer l'image en mouvement, le silence en scansion. Et puis Mathieu Falcon, je vous soumets cette citation aussi. L'image règne, mais elle est simulacre, elle fascine, aspirant le regard et heurtant l'esprit. Elle donne à voir dans l'instantanéité, mais elle ne donne pas à comprendre. Plus que jamais, nous avons besoin de la fiction pour réfléchir, et le mot était en guillemets parce qu'il est polysémique, réfléchir la vérité, écrire contre les images, c'est-à-dire à partir d'eux, mais pour que la littérature advienne. Alors Sabrina Calvo, ça l'exaspère ce genre de citation, j'ai l'impression.
Bah oui, moi je... Excusez-moi, je suis un peu...
Mais comme vous êtes démonstrative, je suis un peu, j'en profite.
Je suis comme ça, j'aime bien.
Bah, très bien.
Moi je suis une grande admiratrice de William Blake, vous savez. Et donc je pense que pour William Blake, les images, elles étaient autant porteuses de sens spirituel que ces mots, en fait. Et pour quelqu'un qui, justement, comme Blake, plaçait beaucoup d'intérêt et de passion dans le mot et dans le verbe qui donne la réalité, qui fait vibrer la réalité, plus exactement. Je pense que lui, sa manière de dessiner et sa manière de mêler le dessin au texte, qui était quasiment précurseur de la bande dessinée, voire du roman graphique, hein, plutôt, plus exactement, hein, c'est quelque chose que on peut encore voir dans certaines bandes dessinées. Dans le roman graphique expérimental, il y en a plein. Enfin, je veux dire, le roman graphique prouve littéralement que c'est complètement débile de dire un truc pareil, quoi. Donc, moi, je crois pas non plus au sophisme du type le plat de l'écran et l'épaisseur du bouquin. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, un gros bouquin, ça a jamais été forcément un bon bouquin non plus. Effectivement, il y a la main, il y a la prise, il y a le rapport charnel au livre, il y a la sensualité des pages, etc. Tout cette espèce de truc. Oh, moi, j'adore les bouquins d'occasion parce que ça pue. Bon, moi, je prends ça avec beaucoup de recul, quoi.
Vous conviendrez que William Blake était soumis à moins d'images que nous, dans notre monde contemporain. C'est ça la question.
Dans sa tête, hein. Peut-être pas.
Ça, dans sa tête, j'espère bien que non. Sinon, il serait pas William Blake.
Non.
Réaction,
Christine. Alors, aussi, Gérard Mordillat. Moi, si je me dis quelles sont les images qui rendent le plus justice au monde dans lequel nous sommes. Eh bien, c'est curieusement des pages ouvertes de livres. Quand vous regardez les cantos d'Ezra Pound, vous voyez tout ce qui est la fragmentation du monde, qui est sa polyphonie, qui est sa polysémie, etc. Mais je vois cette page comme une image. Je la vois, bien entendu, c'est de l'écriture, mais c'est une image aussi. Et si on pense à l'œuvre d'Antonin Artaud, c'est la même chose. C'est toujours un pas en avant sur la littérature contemporaine, parce que justement, c'est passé au langage. Et ce langage, eh bien, il charrie dans un même torrent à la fois des mots et des images, réellement à part égale. Je ne vois pas comment on peut opposer ces deux choses.
Christine Montalbetti.
Oui, moi je ne pense pas que la multiplication des images menace la littérature. Je suis peut-être optimiste, mais...
Ça y est, vous répondez à la question. C'est bien.
D'une part, parce que oui, de fait, peut-être que des gens vont regarder une série plutôt qu'ouvrir un roman, mais en même temps, il y a peut-être plus de lecteurs qu'il y a 100 ans, de lecteurs potentiels qu'il y a 100 ans, et à ce moment-là, tout viendrait fragiliser la littérature, la fabrication des puzzles et toutes les activités, les fabrications des jeux de cartes, etc. Je pense que la multiplication des images, d'abord, elle n'est pas inintéressante à penser ou à refléter ou à utiliser par la littérature, mais que surtout si elle met quelque chose en péril ou en question, c'est plutôt les statuts différents des images elles-mêmes. C'est-à-dire par exemple la multiplication des selfies ou même l'apparition des selfies, qui était quelque chose qui n'existait pas il y a, j'imagine, une dizaine d'années.
Mais les autoportraits,
ça interroge, voilà, c'est ça. Ça interroge exactement
Rembrandt
ça.
Rembrandt a fait beaucoup
de selfies. Le rapport avec l'autoportrait. C'est-à-dire que l'autoportrait, évidemment en peinture, mais même en photo, dans les autoportraits photographiques, il me semble qu'il y a toujours une grande inquiétude. Ce n'est pas des moments de narcissisme ou d'auto-admiration, mais souvent les regards sont très aigus, très inquiets. Et je pense que dans le selfie, à la fois il y a cette inquiétude, c'est-à-dire je pense que le selfie a à voir comme l'autoportrait avec la peur de la disparition, avec la nécessité de se vérifier, de se saisir, de saisir une image de soi. Et en même temps, contrairement à l'autoportrait, le selfie, il est adressé, il est destiné à la communication immédiate, donc il rentre dans un circuit comme ça relationnel. Et puis, il est aussi un outil de vérification. Si je reçois un selfie de quelqu'un qui me dit « je suis chez le coiffeur » et je vois la photo, et il ou elle est chez le coiffeur, alors je n'ai plus de doute. Et donc, ce que fait peut-être le selfie comme d'autres nouveautés autour de nous, c'est que peut-être que ça nous transforme radicalement dans notre rapport au suspense. Mais ça ne transforme pas notre rapport à la littérature, mais notre rapport à la vie. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup moins de suspense qu'il y a 15 ans, quand il n'y avait pas de téléphone portable, que quand j'attendais quelqu'un, je ne savais pas s'il était en route, s'il était sous un bus, s'il avait décidé de ne pas venir. Et si j'attendais un bus, je ne savais pas dans combien de minutes il passerait, etc. Donc j'ai vécu dans un monde comme ça, très anxiogène, mais très romanesque. Et c'est vrai que tous ces suspenses-là sont peut-être atténués par toutes ces transformations. Et nous change, nous modifie beaucoup plus qu'on ne le pense, mais ne menace en rien la littérature.
Aurélien Bélanger.
Je rêvassais, pardon.
Oui, mais je profitais de votre...
Non, je me disais que si on voulait convenir de quelque chose d'assez certain et un peu provocateur, je dirais que le seul sujet de la littérature depuis le début, c'est l'immortalité de l'âme. Je pense réellement qu'il n'y en a pas d'autres. Et en même temps, la littérature arrive au moment où on commence à douter de l'immortalité de l'âme. Donc, en fait, en vrai, je pense que la littérature est une hérésie. Et comme toutes les hérésies, il y a des moments où elle se durcit, elle sombre dans un calvinisme un petit peu hostile et dur, avec les images, le texte seul, les images, c'est mal, etc. Donc, je serais plutôt partisan d'admettre que la littérature est une hérésie, oui, que l'immortalité de l'âme telle qu'elle est proposée dans la littérature... c'est une blague, mais on n'a pas tellement mieux, donc on va faire avec. Et ensuite, je dis ça sérieusement, parce que je pense que le sujet à chaque fois, c'est d'essayer de tenir le plus gros objet possible. Et on sait qu'on a une vie, on a assez peu de doutes sur le fait qu'on est vivant et qu'on va vivre et mourir à la fin. Mais c'est un objet, on est un peu trop gros pour soi-même. Donc parfois, on écrit des livres pour essayer de se rassembler, pour se tenir. Même quand on prend un livre très court qui va raconter une session, une séance de crise qui durerait 10 minutes, on aimerait bien qu'elle soit métonymique de la vie entière. Donc on a une sorte d'énorme pince qui s'appelle la littérature. On essaie de s'enfermer comme ça. Et je me suis perdu avec mon histoire de pince, pardon.
L'immortalité de l'âme.
Et je pense que le statut un peu bâtard de la littérature, c'est ça, c'est qu'on peut pas vraiment dire que l'unique sujet qui nous préoccupe, c'est l'immortalité de l'âme, parce que en dehors de tout système religieux, je pense que spontanément, on croit à l'immortalité de l'âme et que c'est une connaissance naturelle. Et il se trouve qu'on a grandi dans un monde pour lequel c'était une connaissance exotique. Donc on a fabriqué la littérature qu'une sorte d'escalier tronqué qui nous mène lentement à l'immortalité de l'âme, mais au bout de trois casses, au bout de trois marches, on s'effondre et ça marche plus du tout et ça rend hyper mélancolique, etc. Mais malgré tout, je pense que on n'est pas un écrivain sérieux en dehors de cette question. Ouais. Bon, quand bien même on n'y croit pas.
Avec toutes ces références religieuses, il faut que je demande au père Mordia son avis quand même. Grand connaisseur,
mais qui justement n'a pas d'âme. Voilà,
on a. Qui fait que douter.
Je n'ai pas d'âme du tout et je n'ai pas d'idée d'immortalité. Et je sais que la fin, elle est une fin ultime et donc voilà. Mais je comprends que ça puisse s'exprimer dans ces termes-là, bien entendu.
Peut-être que vous le dites autrement, parce que je vous cite de mémoire, mais vous dites que le seul sujet du cinéma, c'est le cinéma, le seul sujet de la littérature, c'est la littérature.
Oui.
C'est un peu la même chose.
Non, mais bien entendu, parce que je crois qu'il y a à la fois dans le cinéma et dans la littérature la poursuite enfin d'une vérité qui ne peut se dire que dans ces termes-là. Et que cette vérité que tout écrivain ou que tout cinéaste poursuit, bien entendu, c'est une vérité qui se dérobe à nous à l'instant même où on croit la saisir. Donc on écrit un autre livre, donc on fait un autre film, etc. Et c'est dans ce mouvement-là qu'il y a réellement la vie. Et parce que, justement, et les livres et les films ne sont pas une collection de cercueils. C'est quelque chose d'incroyablement vivant, qui demeure vivant. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien entendre, que le livre, comme le film, est aussi quelque chose en mouvement.
Christine Montalbetti.
Oui, par rapport à ce que disait Aurélien, je crois que c'est plutôt l'idée de la mortalité qui me fait écrire. Justement, la peur devant tout ce qui disparaît et le désir de garder des traces et aussi de célébrer ce qui était vivant.
Sabrina Calvo.
Alors maintenant que j'ai compris la question, je vais pouvoir y répondre.
Vous avez bien fait de
merci
venir.
Merci à vous tous et toutes, parce que j'ai enfin compris. Moi, je pense que j'aime bien l'idée de l'immortalité de l'âme, tout ça, même si c'est peut-être un peu trop absolu. Mais en tout cas, un truc que je sais, c'est que la littérature, enfin en tout cas l'écriture me permet une ambiguïté et une nuance que les images ont, auxquelles les images résistent parfois, en fait. Et peut-être que aujourd'hui, l'omniprésence des images et de la narration aussi, de certains types de narration, je veux dire, quand on est branché sur Netflix, on peut voir qu'à un moment donné, les schémas de narration sont systématiquement tous les mêmes, quoi. Je pense que c'est cette négation de l'ambiguïté, en fait, ou en tout cas cette neutralisation de l'ambiguïté. Et moi, qui suis une personne spirituelle, j'ai l'impression que la spiritualité, elle se trouve dans les choses, entre les choses, en fait. Elle se trouve dans ces interstices-là, dans ces espèces de... Et que ça, c'est quelque chose qu'on peut approcher avec des nuances de mots, avec des alliances très très souples et très fines d'expérimentation, de mailles. Et l'image a tendance, en tout cas dans la plupart de ces narrations traditionnelles, à des vertus d'illustration en fait, qui neutralisent complètement des notions d'ambiguïté, des notions de nuance. Et ça, je pense que ça peut être effectivement un gros souci qui pourrait y avoir. C'est-à-dire que finalement, quand on est confronté à l'image en permanence, que ce soit de l'image des séries, des images de documentaires qu'on passe sur TF1 ou des choses comme ça, je pense qu'on est confronté à une vision très uniforme de la réalité et très uniformisée et aplati de la réalité, en fait. Et je pense que c'est ça, peut-être le problème qu'on a en ce moment, c'est cette volonté de tuer la nuance, quelque part, quoi. Pour se rassurer, peut-être. Pourquoi, j'en sais rien, parce qu'on a peur de mourir, probablement.
Alors, peut-être ça renvoie aussi à une autre des thématiques récurrentes dans les réponses des écrivains à cette question, hein, pour la revue papier, à quoi bon la littérature dans un monde d'images. Catherine Cusset écrit « La littérature, c'est un lieu hors image dont nous avons de plus en plus besoin. » À un moment où l'image s'empare de chaque recoin de nos vies, ce lieu de liberté pour l'imagination qui ouvre un espace où l'on peut rêver, méditer, rire à son rythme. Muriel Barbery dit, elle, le roman est le plus génial support jamais conçu de la liberté d'imaginer, de produire des images qui soient nôtres. Naomi Wallace dit la même chose, d'une certaine façon, il n'y a pas de meilleur fabricant d'images que l'esprit humain. Marion Messina, pour terminer les citations, le mot qui pénètre votre subconscient vous structure mentalement bien plus que l'image. L'écriture reste le média de la propagande au meilleur rapport qualité-prix, Gérard Mordillat. Non, je crois l'imaginaire que... du lecteur, quand même, la place laissée, on en revient
oui, mais
à cela.
Ce qui se joue, c'est la question du temps, tout simplement. Parce que
c'est ma dernière thématique, ça, mais
oui.
Allez-y.
Ah bah pardon.
Non, mais c'est vrai, c'est
non,
normal.
Mais c'est ça, parce que lorsqu'on voit un film, on a subi le temps du film. Hein, on s'assoit dans la salle, ça commence et ça finit, et il n'y a rien. Évidemment, quand on lit un livre, on maîtrise son temps de lecture. Mmh. Et cette différence de perception du temps est extrêmement importante dans la réception des œuvres. Alors c'est vrai, je suis d'accord aussi que le problème du cinéma, et notamment, alors là, massivement, impérativement, de toute la production cinématographique américaine, c'est que ça enlève le doute. C'est toujours un discours de certitude et c'est une chose rassurante. Parce que ils ont érigé comme une loi d'airain la cause à effet, qui d'abord était une solution pour le comique, hein, c'était vraiment une chose comique. Maintenant, c'est appliqué à tout. Donc le spectateur sait que même si on voit le massacre le plus épouvantable, ça va être expliqué par la scène suivante. Ça va être... Donc on va être rassuré, effectivement. On va être conforté dans ce qu'on a. Et puis, c'est là qu'on cesse de penser. Parce qu'il y a ce discours sans cesse qui nous dit, au fond, il n'y a pas d'incertitude. Or, nous savons tous que la vie est une absolue incertitude. Et moi, j'aime beaucoup dans la philosophie arabe cette idée que le futur, c'est ce qu'on a dans le dos. Parce qu'on peut être surpris à tout moment par la chose. Que le passé, c'est ce qu'on a devant les yeux, puisqu'on le connaît. Eh bien, le cinéma, justement, joue sur le temps et veut nous rassurer et nous enlever toute inquiétude et toute incertitude. Et c'est aussi pour ça que c'est, évidemment, un moyen puissant de propagande. En revanche, à l'inverse, le livre, le roman en particulier, nous rend cette incertitude, nous rend ce doute, nous rend cette interrogation. Et c'est là que ça lui accorde une place incomparable dans ce qui est la perception des œuvres d'art.
Ben, sur la question de la temporalité, hein, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans la revue papier. L'éloge de la lenteur, Laurent Godet écrit « J'écris parce que le monde a besoin des mots lents de la littérature ». Arrigo Lesana dit « Le désir a besoin de temps pour se déployer. Dans la lenteur du récit, la fiction transforme le lecteur. Elle lui offre l'accès à d'autres vies, laisse à l'imagination un espace sans limite ». Vous évoquiez Western tout à l'heure, Christine Montalbetti. C'est vrai que ça commençait à l'aube. Il y avait vraiment ce temps long de la lumière qui commence à apparaître. C'est le, et, enfin, moi, je l'ai vu, cette aube se lever en lisant votre livre. Il y a de ça, c'est prendre le temps et donner le temps, restituer du temps dans la littérature.
Oui, sans doute. Enfin, la littérature, elle entretient un rapport très, très fort à la question du temps, mais aussi à la question, oui, de ce qui s'enfuit, de ce qui est passé, de ce qu'il faut raviver. Après, un film aussi, ça demande du temps à faire. Donc, tout dépend de quelles images on parle aussi. Et c'est tout à fait aussi une autre histoire si on pense à la photographie, aux théories à l'argentique, aux théories de Cartier-Bresson sur l'instant, sur la captation, où là, on est dans un art... de la saisie rapide, effectivement, et pas un art qui se développe sur le temps long. Peut-être que ce qu'on pourrait dire, c'est que entre le film et le roman, c'est que au fond, les romans ont toujours quelque chose d'inachevé, parce qu'un roman, c'est si on le regarde, c'est un ensemble de caractères qui sont comme des petites choses lyophilisées, et presque mortes, et qu'il faut que le regard du lecteur ravive. Le film a besoin des spectateurs, mais il est là. Comme objet entier, peut-être, même si, encore une fois, le spectateur fait aussi travailler son imagination quand il regarde un film. Alors peut-être c'est ça, c'est que c'est cette dimension comme ça, incomplète du livre, qui a besoin que l'imaginaire du lecteur le ravive, le redéploie, et qu'il se redéploie donc différemment dans chaque imaginaire de lecteur. Peut-être que ça, c'est une différence, qu'il y a toujours quelque chose d'incomplet et d'en attente de cette complétude dans un texte.
L'éloge de la lenteur, là je parlais de mon point de vue, celui du lecteur, mais que vous êtes aussi toutes et tous. L'éloge de la lenteur en littérature, c'est dire que les livres qu'on aime vraiment, on n'a pas envie de les lire vite, parce que d'abord on a besoin de temps pour soit pour les goûter, soit pour les comprendre, soit pour n'y rien comprendre et revenir en arrière. Les livres qu'on aime le plus, on les lit plusieurs fois dans sa vie, on y comprend à chaque fois quelque chose de nouveau. Vous pourriez faire, Aurélien Bélanger, l'éloge de la lenteur pour le lecteur ?
Bah, paradoxalement, moi, plus je parle vite, plus j'ai l'impression d'être intelligent. Donc, je suis pas trop un amateur de lenteur. Et de même, le moment où je travaille le mieux dans une journée, c'est entre 16h15 et 16h20. Parce que je sais qu'il faut que je parte à l'école et que j'ai 5 minutes et que ces 5 minutes sont un peu prodigieuses. D'un autre côté, c'est vrai que j'ai une sorte de passion, presque jusqu'au fétichisme, pour des écrivains à phrases longues et compliquées comme Julien Gracq. On a vraiment l'impression que c'est un crochet rentré dans la narine d'une momie et on en sort péniblement le cerveau. Ça fait mal à lire, mais à la fin, il y a le miracle. L'image est complète, reformée à l'extérieur. Le cerveau est sorti, on est content. Donc, il y a quand même parfois ça. Après, ça m'avait frappé aussi en découvrant Rousseau. Il y a une qualité grammaticale de la phrase qui s'est très très largement perdue. On pense par exemple que Proust, c'est impressionnant grammaticalement, c'est assez faible, c'est très puissant, hein, mais c'est plutôt une machine linéaire. Rousseau, en termes de structuration des phrases, c'est assez inégalable. Et là, je veux pas être un peu décliniste, mais il y a quelque chose qu'on a un tout petit peu perdu en langue française depuis le 18e siècle. Et mon rêve dans la vie, ce serait d'être bon en grammaire. Mais bon, les gens qui écrivent des bouquins sur la grammaire, qui sont obsédés par la grammaire, en général, écrivent des piètres œuvres. Donc,
Sabrina Calvo, opine.
Ouais, je me souviendrai toujours, mon prof en CE1 qui me disait, non, en 6e, qui me disait la grammaire, c'est la science des cons. Et ça, du coup, je suis d'une nulle absolue en grammaire. C'est rigolo cette histoire d'éloge du temps, moi c'est de l'éloge de la lenteur, mais c'est rigolo parce que je ne conçois pas du tout les termes en termes de vitesse ou en termes de lenteur, même si je peux être un peu comme Aurélien dans les 5 minutes là et de faire tour en 5 minutes. Moi ce que j'aime bien c'est plutôt justement la neutralisation totale du temps en fait. Jane Austen fait ça très bien par exemple. Jane Austen, on a l'impression que tout se déroule comme ça, soit en une seconde, soit en 10 000 ans, on ne sait pas trop en fait, c'est cette espèce de soupir là suspendu, et je trouve ça très beau en fait, et cette suspension là dans l'écriture me plaît énormément, et je pense pas à arriver à un dixième de ce qu'elle arrive à faire dans son écriture, mais oui, ni lent ni vite, juste pas quoi.
Alors moi, chaque soir, par contre, je dois regarder la pendule, voir que l'émission touche bientôt à sa fin, et me dire que pour finir cette émission un peu spéciale, hein, de la dispute au Salon du Livre Paris, revenir quand même sur vos textes respectifs dans le numéro 28 de la revue papier. Peut-être un commentaire supplémentaire. En même temps, il nous reste 2-3 minutes, ça va être assez rapide. Alors, Aurélien Bélanger, tout à l'heure, vous avez dit on écrit pour l'immortalité de l'âme, pour atteindre l'immortalité de l'âme.
Oui, strictement, oui.
Alors, dans la revue papier, ça devient « J'écris, je crois, pour stocker mes états mentaux dans une éternité quelconque ». C'est ça que vous vouliez écrire ?
J'ai progressé depuis, c'était il y a un mois, et depuis j'ai enlevé le quelconque. Ouais. C'est très évolutif. Oui, un peu en tout cas, on pense. Au début, c'était vraiment pour laisser des choses, et que c'est quelque chose. C'est la fin d'intelligence artificielle, le film de Spielberg. À la fin, il reste stocké dans le cerveau du robot une seule scène, et il va revoir sa mère. Et il sait très bien qu'en revivant cette chose, ça va détruire la scène à tout jamais. Mais l'idée qu'à la toute fin de nos vies, que j'aurais écrit à la fin 90 romans, je suis optimiste, si à la fin il restera de ces 90 romans concassés par des très grosses machines qui extrairont des données, s'il restera 15 secondes d'enfance, ce sera déjà ça comme immortalité de prise.
Christine Montalbetti, dans ce que vous écrivez, pourquoi écrivez-vous ? Pour retenir ce qui s'enfuit, parce que ça me relie au monde. Ça suffit, d'accord. Je passe à Gérard Mordillat.
Ah non, je
vous
réponds.
Vous voulez commenter ?
Oui, c'est ça. Développer. C'est ce que je disais tout à l'heure sur plutôt la mortalité qui fait écrire, la peur de ce qui disparaît, la nostalgie.
Et que ça me relie au monde. Sans
ce
ça,
qui me relie au monde, ce qui me fait me sentir vivante. Et c'est vrai que l'écriture, à la fois, permet de rejouer les émotions, d'exalter, en fait, le fait d'être vivant. Et à la fois, c'est un moment vivant en soi. Je parle aussi du côté artisanal, de la sensation que j'ai vraiment d'écrire avec les mains, que c'est aussi un travail manuel d'écrire, et que c'est aussi une manière de poser son corps dans l'espace, d'échanger avec une pièce, avec le dehors, avec l'air qui passe par la fenêtre. Et voilà, c'est une manière d'être au monde aussi, même le moment d'écrire.
Gérard Mordillat, alors je découvre, je vais le dire, qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, ce qui est assez incroyable. Écrire parce qu'il y a une vérité qui ne peut s'approcher que par les mots, par la capacité de la littérature, et plus particulièrement le roman, à nommer le réel, à utiliser le mot juste pour dire ce qui ne va pas. Je crois qu'on n'a pas utilisé le mot de réel dans cette heure d'émission sur la littérature et les images, ce qui est assez étonnant.
Mais oui, voilà. Parce que c'est vrai que le réel, c'est pour moi la question centrale. Et je crois que justement, la force des écrivains, la force des romanciers, c'est de nommer les choses par leur nom. Ce que ne font plus jamais ni les politiques, ni les commentateurs, ni les publicitaires. Et nommer les choses par leur nom, eh bien, c'est commencer à transformer le monde.
Et puis, puisque c'est la fin, Sabrina Calvo, la lumière nous quitte tous et toutes, alors autant écrire. Je ne sais pas si ça demande un commentaire supplémentaire.
Non,
je crois que c'est bien comme fin.
Rien à dire, ouais.
Ouais, c'est pas mal comme fin. Donc il me reste à vous remercier, Christine Montalbetti, Sabrina Calvo, Gérard Mandia, Aurélien Bélanger, d'abord d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout à celle de la revue papier, de ce numéro 28, disponible en kiosque, avec ce grand dossier. À quoi bon la littérature dans un monde d'images? On y trouvera bien sûr aussi quantité d'autres sections passionnantes. Merci à vous. Alors, avant le jeu de la dispute, un peu de promotion aussi, non? Une annonce pour vous dire que demain, vendredi, vous rappelez qu'il y a deux nouvelles masterclass de France Culture qui vont être enregistrées. C'est au Théâtre de l'Alliance Française, boulevard Raspail à Paris. Jean-Marc Rochette, monument de la bande dessinée, qui sera interrogé par Antoine Guillaume à 19h. Et après, c'est la cinéaste Claire Simon qui répondra aux questions de Mathilde Wagman. C'est à 20h30 pour Claire Simon. On peut réserver sa place, évidemment, via le site internet de France Culture. L'heure du jeu de la dispute, très vite, avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint comme chaque soir. Et on fait gagner ce soir des DVD d'un film, Ragtime, de Milos Forman, qui vient d'être réédité par Arte. La question, Joséphine?
Dans quel film Milos Forman donne-t-il la réplique à une célèbre actrice française?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. On se retrouve demain, ici même, au Salon du Livre à 19h pour une dispute cinéma. C'est le genre cinéma, mais du coup, livre consacré au cinéma. On parlera des textes critiques de Jacques Rivette, des écrits complets d'André Bazin et de trois essais sur Twin Peaks.